Chapitre 11. En revenant un matin d'une promenade en mer avec Florita et le vieil Yves Gouez, qui se maintenait ferme au poste, comme il disait, Alain se croisa, non loin de Kerhéven, avec Monsieur Barwell, locataire du vieux logis depuis 7 ans. Cet homme, d'une 60aine d'années, grisonnant, un peu fort, avait une mine correcte et distinguée. Il venait passer à Kerhéven 4 ou 5 mois de l'année, avec sa femme, une grande rousse, portant lunettes, qui faisait de longues promenades sur la côte et dans l'intérieur, suivie de ses chiens, 2 Danois à l'aspect féroce, dont cependant nul n'avait eu à se plaindre dans le pays. On trouvait ces étrangers un peu originaux, mais on disait « ce sont des Anglais ». Monsieur Barwell, qui avait, racontait-il, passé 20 ans dans la marine de commerce, aimait passionnément la mer. La situation de Kerhéven l'avait enthousiasmé. Aussi, M. Mulbach obtenait-il de lui un bon prix pour cette location. L'Anglais, fort à l'aise, n'y regardait pas d'ailleurs, et il était bien vu dans le pays à cause de sa générosité. Pendant ses précédents séjours à Runesto, Alain, parfois, avait eu occasion d'échanger quelques mots avec lui au cours de leurs rencontres assez fréquentes, car M. Barwell, lui aussi, se promenait beaucoup. Aujourd'hui, l'Anglais arrêta le jeune homme et lui tendit la main. « Vous voilà en congé, monsieur, pour quelque temps ?»« 1 mois, cela passera vite. »« Eh oui, mais profitez-en bien, du moins. »« C'est ce que je fais. Nous revenons d'une fort agréable petite excursion en mer, ma cousine et moi. » Monsieur Barwell sourit, en enveloppant la fillette d'un coup d'œil intéressé. « Ah, c'est ma petite propriétaire !» Ma femme et moi, nous nous plaisons énormément dans votre Kerhéven, mademoiselle. » Florita riposta gaiement. « Eh bien, tant mieux, monsieur. Comme cela, ma vieille maison sera louée plus longtemps. Pourtant, il me semble que ce doit être bien triste là-dedans. » « Oui, si nous avions votre âge. Mais au nôtre, on aime la solitude. Nous vivons de souvenirs. Ma femme a passé une grande partie de son enfance sur une côte sauvage comme celle-ci. Et les fureurs du vent, de la mer, ne l'effraient pas. » Il s'interrompit en disant « Mais pardon, je vous arrête là. Vous étiez peut-être pressé de rentrer. »« Oh, pas du tout. Il y a 1 heure encore avant le déjeuner. Plus de temps qu'il ne nous en faut pour changer de tenue. Eh bien, je vais faire quelques pas avec vous, si vous le voulez bien. Votre demeure m'intéresse beaucoup, monsieur de Pinvalas, et je souhaitais vous demander quelques détails à son sujet. » Ils revinrent tous 3 vers Runesto, à Palan. Le jeune marquis parlait des origines du château, de la grosse tour plus ancienne que le reste. Ici, l'Anglais demanda « Est-ce là que se trouve l'entrée de ces souterrains dont parle la légende de Kerhéven ?» Alain répondit brièvement « Non, ce n'est pas là. D'ailleurs, elle a été murée par l'un de mes ancêtres. »« Ah oui, on me l'a dit. Et vous n'avez pas la curiosité d'explorer ?»« Pas du tout. » Ce furent, si l'on en croit la tradition, des lieux sinistres. Laissez-les à leur silence. » Monsieur Barwell secoua la tête. « Eh, je serais plus curieux que vous, monsieur. Il est vrai que je suis fort amateur de ces histoires légendaires et des lieux où les situe la croyance populaire. N'y a-t-il pas quelqu'une de ces légendes au sujet de votre vieille tour ?»« Plusieurs, même. La plus intéressante est celle-ci. Une dame de Pinvalas, voyant Runesto attaqué par les Anglais, cacha ses trésors. Le château fut pris, les vainqueurs s'y installèrent. Mais quand, le lendemain matin, les soldats cherchèrent leur chef, ils ne le trouvèrent pas non plus que la châtelaine. Jamais on ne le revit, lui. Mais aussitôt que les Anglais, désemparés, eurent quitté Runesto, la dame de Pinvalas reparut. Elle avait les cheveux tout blancs, et jamais elle ne voulut apprendre à personne ce qu'était devenu le chef anglais. Mais elle fit dire beaucoup de prières, distribuer d'abondantes aumônes, et jusqu'à sa mort on la vit triste, comme accablée sous le poids d'un lourd secret. L'Anglais dit en souriant, il n'y avait pas encore d'entente cordiale en ce temps-là. « À votre avis, monsieur de Pinvalas, qu'advint-il de mon pauvre compatriote ?» Alain jeta un coup d'œil vers Florita. La fillette, au bord du chemin, cueillait une branche d'églantier. Alors l'officier dit en baissant la voix, « Je m'imagine ceci. La dame de Pinvalas, fort belle, dit la tradition, plut sans doute au chef ennemi. Alors, feignant d'entrer dans ses vues, elle l'entraîna vers quelque oubliette, peut-être dans les souterrains, dont elle referma l'entrée sur lui. L'anglais mourut là, probablement, et jamais la pensée de cette agonie ne dut quitter cette femme qui avait ainsi à la fois sauvé son honneur et tout le pays que les ennemis s'apprêtaient à piller. Oui, votre hypothèse me paraît très plausible. Vraiment, c'est fort intéressant toutes ces vieilles histoires. Alain proposa. Si vous voulez visiter la tour, venez quand il vous plaira, monsieur. Oh, merci, je serai enchanté, et j'userai sans trop tarder de cette autorisation. Mais je vous laisse ici, à bientôt donc. J'irai faire connaissance avec votre belle vieille tour, monsieur. Il serra la main du jeune homme et de Florita, puis s'éloigna d'un pas encore alerte. Alain fit observer tout en continuant d'avancer. « Il est agréable, ce monsieur Barwell. »« Oui, fort agréable. »« Tiens, voilà votre Elsa qui rentre aussi là-bas. »« Toute seule ?»« Oui, elle fait de très longues promenades qui fatiguent Armel. »« Et toi, tu ne l'accompagnes pas quelquefois ?» Florita secoua la tête. « Non, je n'ai toujours pas de sympathie pour elle, Alain. »« Pourtant, elle est très aimable pour moi. »« Mais elle l'est pour tout le monde au reste. » Alain eut un léger sourire d'ironie. En effet, quelquefois elle l'est presque trop. Accoutumé aux avances féminines, très observateur d'ailleurs, le jeune officier avait déjà pu s'apercevoir, en ces quelques jours, de l'effet qu'il produisait sur la pupille de son aïeul, de l'admiration voilée, de l'empressement discret dont il était l'objet. Son amour-propre en était quelque peu flatté. Bien qu'il ne fût aucunement fat, M. de Pinvalas n'ignorait pas qu'il possédait un grand pouvoir de charmeur, et que de nombreux cœurs s'offraient à lui. Or, si obéissant aux solides principes inculqués dès l'enfance, et conservant toujours en outre dans son souvenir une enfantine et pure image, il voulait continuer de mener une existence sérieuse en repoussant les tentations si nombreuses sur sa route d'homme riche et séduisant, il ne lui déplaisait pas néanmoins d'être recherché, de voir les plus jolies femmes et les plus difficiles qu'était son attention, devenir très vite éprise de lui. Et vraiment, il trouvait assez agréable que la jeune Suissesse eût été si vivement impressionnée par lui. Les deux cousins se rencontrèrent avec Elsa à l'entrée de l'avenue. Alain, en lui serrant la main, demanda « Bonne promenade, mademoiselle ?»« Excellente, je ne me lasse pas de cette côte superbe. » Florita fit observer. Je crois que bien peu de personnes n'en apprécient pas la beauté. L'anglais de Kerhaven que nous avons rencontré tout à l'heure nous a dit comme il aimait cette situation. Ah, vous avez vu monsieur Barwell? Depuis qu'il me s'est revenu d'Angleterre, il m'arrête aussi quelquefois et nous causons dans sa langue. Alain s'informa. Trouve-t-il que vous la parlez bien? Mais oui, du moins il me le dit. Ce peut être par simple politesse. Je crois davantage en l'opinion de Miss Juxton, qui s'est déclarée satisfaite de son élève. Et toi, Florita, l'anglais, l'allemand, comment cela marche-t-il? L'anglais, très bien. L'allemand, pas mal aussi, prétend l'oncle Otto, mon professeur. Mais elle m'ennuie, cette langue. Je l'ai dit à mon oncle qui a paru choqué. Il voulait que je parle toujours allemand chez lui pour m'habituer. Mais j'emploie le français plus souvent encore, je vous assure. Tu es une très bonne patriote, Florie. Du bout des doigts, Alain, souriant, caressait la joue de sa cousine. Elle dit vivement. « Oh oui, oui, j'ai bien du sang espagnol dans les veines, mais avant tout je suis française. » À l'ombre de ses cils blonds, Elsa glissa vers la fillette un coup d'œil hostile qui se fit presque haineux quand Alain, entourant de son bras le cou de Florita, dit avec une gaieté mêlée d'émotion « Bravo, petite cousine !» Quand, un peu plus tard, elle fut remontée dans sa chambre, mademoiselle Hoffel s'assit près de la fenêtre ouverte et, le coude contre l'appui, se prit à songer. Un pli profond barrait son front, qu'elle avait bas et très blanc. Une vive contrariété apparaissait dans son regard. Puis, levant les épaules, elle murmura un sourire de défi aux lèvres. « Une enfant ! Et moi, je suis femme, je suis très belle, tout le monde me le dit. » Si je l'avais permis, combien d'hommages aurais-je déjà reçu? Mais c'est lui que je veux, maintenant plus que jamais, car je l'aime, je sens que je l'aimerais follement, ce beau français. » Quelques jours plus tard, Pepita, répondant à une précédente invitation de la marquise, annonça qu'elle viendrait passer une semaine à Runesto. Depuis la mort d'Inès, elle avait conservé avec Madame de Pinvalas de bonnes relations. Toutes deux s'écrivaient parfois pour se donner réciproquement des nouvelles de Florita, et la châtelaine, apprenant que Madame Mulbar villégiaturait à Trégastel avec sa belle-sœur et ses neveux, lui avait demandé de venir passer quelques jours au château. Pépita arriva un après-midi dans l'automobile que son mari avait récemment acquise. Madame Mulbar, associée à un banquier d'origine autrichienne installé à Paris depuis de nombreuses années, semblait faire d'excellentes affaires, si l'on en jugeait par son train de vie de plus en plus confortable. Et Madame avait de fort élégantes toilettes, qu'elle portait d'ailleurs avec beaucoup d'aisance. Le souvenir de sa sœur ne la gênait plus guère maintenant. Néanmoins, elle détourna les yeux quand, le lendemain de son arrivée, au cours d'une promenade sur la côte, elle aperçut au loin le promontoire de Kerhéven. Pendant un moment, la terrible vision se représenta à son esprit, Inès, debout, tendant les mains vers la mer furieuse. Et puis tout d'un coup, plus rien. Madame Mulbar frissonna, et juste à ce moment, Alain, qui marchait près d'elle, fit observer à mi-voix, pour n'être pas entendu de Florita, « Je ne puis jamais voir Kerhéven un jour de tempête, surtout, sans penser à votre pauvre sœur, madame. » Elle balbutia. « C'est une évocation douloureuse. » « Oui, beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus affreuse que ne pouvait le penser Alain. » Dans un chemin creux, les promeneurs croisèrent Miss Barwell, toujours suivie de ses chiens. Vêtue d'une jupe grise, d'un tartan écossais, coiffée d'un petit chapeau de toile cirée entouré d'un voile qui ne permettait guère de voir son visage, l'Anglaise marchait à grands pas, une haute canne à la main. Elle répondit aimablement au salut d'Alain et de ses compagnes. Florita, se détournant, la suivit un moment des yeux, puis fit remarquer. « Elle n'a pas une allure élégante, cette brave Miss Barwell. Elle marche comme un homme. J'aime mieux son mari. Elle, je la crois un peu marteau. Et elle ne parle à personne, fait toujours ses promenades seule. C'est une originale. » Alain ajouta en riant. « Et elle n'est pas une beauté, si l'on en juge par ce qu'on peut apercevoir de son visage. Avec cela, trop grande, maigre, mal bâtie, et ses cheveux roux, une vraie tignasse. Non, il n'a pas eu bon goût, monsieur Barwell, le jour où il a fait ce choix-là. Ils paraissent fort indépendants l'un de l'autre, car on ne les voit guère ensemble. » Elsa fit observer. « C'est la manière anglaise, mais j'ai idée que Miss Barwell est une neurasthénique, venue ici pour se soigner. Peut-être, je ne sais si Kerhéven est un lieu bien approprié à une cure de ce genre. » Monsieur Barwell a l'air de dire que sa femme s'y trouve fort bien. D'ailleurs, en été, c'est supportable. Oui, à peu près, car les jours de tempête. » Florita, qui marchait près de son cousin, eut un tressaillement léger. Son regard se dirigeait vers cette pointe de Kerhéven où, lui avait-on dit, sa mère s'étant imprudemment aventurée un après-midi où la tempête faisait rage, avait été enlevée à la fois par le vent furieux et par une lame déferlante. Sa mère, elle se la rappelait, brune, pâle, avec des yeux tristes et lointains. Mais elle conservait encore une autre vision, celle d'une jeune femme rieuse, élégante, parfumée, qui ne restait guère au logis, à moins que ce ne fût pour y recevoir ses nombreuses connaissances. Et Florita revoyait aussi la figure amaigrie de son père, le regard pensif, qui ne s'éclairait qu'à la vue de la petite fille. Plus d'une fois, surtout quand elle se trouvait chez les Mulbar, Florita avait pleuré, le soir, seule dans sa chambre, à la pensée qu'elle se trouvait orpheline, au souvenir de ce père, de cette mère qui, tous les deux à leur manière, l'aimaient tendrement. Et aujourd'hui, des larmes lui montaient aux yeux, tandis qu'elle regardait Kerhéven, la sombre maison que chauffait cet après-midi un brûlant soleil. Une fois de plus, sa vive imagination évoquait l'affreuse chose, plus affreuse qu'elle ne le pensait, car on lui avait caché que sa mère, dans un accès de folie, s'était volontairement offerte à la mère dévorante. Et elle voyait la jeune femme saisie, emportée, roulée par ces vagues énormes, sombrant en quelqu'un de ces gouffres sous-marins, nombreux, disait-on, aux alentours de Kerhéven. Une main tout à coup se posa sur son épaule. Alain, qui marchait près d'elle, se penchait un peu en disant à mi-voix d'un ton ému et tendre « Tu penses à ta pauvre maman, ma Florita ?» Elle leva sur lui ses yeux brillants de larmes. « Oui, j'y pense très souvent, mais particulièrement quand j'aperçois Kéréven. Vois-tu, Alain, j'aurais mieux aimé que cette maison ne fût pas louée. C'est là qu'elle est venue pour pleurer papa, là que je l'ai vue pour la dernière fois. Je comprends ce sentiment, mais ton oncle Mulbach a cru bien faire en augmentant ainsi ton revenu. Aussi je ne lui en fais pas de reproche, mais je dis que si j'avais été libre, je ne l'aurais pas loué, quitte à me priver un peu. » À Runesto, les promeneurs trouvèrent M. Barwell, qui venait de visiter la tour, sous la conduite d'un domestique auquel le jeune châtelain avait donné précédemment ses instructions. L'Anglais, homme fort discret, avait tardé un peu avant d'user de l'autorisation accordée. Ceci plut à M. de Pinvalas, qui invita l'étranger à voir quelques autres parties du château fort intéressantes. La chapelle, entre autres, contemporaine de la tour, antérieure même à celle-ci, disaient les connaisseurs, méritait par son ancienneté, son genre primitif, l'attention que lui accorda M. Barwell. C'était un petit monument trapu, en granit sombre, décoré à l'intérieur de quelques sculptures assez grossières. Une ouverture en plein cintre donnait accès sous son porche, très bas, d'où l'on pénétrait à l'intérieur. D'anciens vitraux tamisaient un jour avare, mystérieux, et il fallait un moment pour distinguer l'autel, les statues, les sarcophages bordant l'allée, tout cela fait du même granit foncé, devenu presque noir sous l'action des années. Les Pinvalas, depuis des siècles, étaient inhumés dans la crypte qui existait sous la chapelle, sauf certains d'entre eux qui avaient tenu à reposer dans la chapelle même. Leurs restes occupaient ces tombeaux lourds et sévères, décorés seulement d'une croix et des armoiries de la famille, sculptées dans le dur granit. M. Barwell examinait tout avec intérêt, s'arrêtait longuement devant les vitraux encastrés dans les étroites fenêtres. Très beau, vraiment. Intéressante cette chapelle, période romane primitive.
La crypte date de la même époque sans doute. Non, elle est beaucoup plus ancienne, d'après la tradition, mais elle ne présente rien de particulier. Les tombeaux sont à peu près semblables à ceux que vous voyez là. Il y règne une fraîcheur glaciale qui la rend plutôt dangereuse à visiter par des temps comme ceux-ci. L'Anglais n'insista pas, mais au passage, il jeta un coup d'œil de regret vers la porte cintrée, large et basse, qui donnait accès à cette crypte funéraire. Dehors, il remercia. « Je vous suis infiniment reconnaissant, monsieur, de m'avoir montré ces curieuses parties de votre vieille demeure. Mais je vous ai dérangé. Votre famille va me trouver insupportable. » Alain sourit. « Non, non, ma famille n'est pas si tyrannique, rassurez-vous. Présentez-lui toutes mes excuses. Au revoir et merci, monsieur. » Alain eut une courte hésitation. Devait-il offrir à l'étranger de venir saluer sa grand-mère et de prendre le thé avec eux? Pourquoi pas? Ce monsieur Barwell était un homme distingué, intelligent, plutôt sympathique. Madame Mulbach, qu'il avait connue à Paris, chez des amis communs, le déclarait d'excellente famille et d'une honorabilité inattaquable. L'Anglais, ayant accepté l'invitation, simplement comme elle lui était faite, il se trouva quelques instants plus tard sur la terrasse avec les châtelains, Pépita et Elsa. Mis en confiance, il apprit à ses hôtes que sa femme, comme l'avait pensé Mademoiselle Hoffel, était atteinte de neurasthénie et s'obstinait à ne voir personne, à sortir seule, à ne presque pas parler, même à lui. « Je vous assure que c'est un dur souci pour moi, » ajouta-t-il mélancoliquement. « Les médecins m'ont donné peu d'espoir de guérison. Pourtant, je ne désespère pas, ici elle se trouve toujours mieux. Mais nous ne pouvons y demeurer tard dans la saison. » Il faut, dès octobre, en partir et regagner notre villa de Nice. J'ai, heureusement, des domestiques dévoués, qui m'aident à la soigner et la surveillent un peu, car cet état-là n'est pas sans me donner des inquiétudes. Madame de Pinvalas demanda. « Ce sont des Suisses, je crois. »« Oui, des Bernois, un excellent ménage depuis longtemps à notre service. » Elsa dit en souriant. « Des compatriotes à moi. Je leur ai parlé un jour. » Et j'ai reconnu aussitôt le mauvais allemand de Berne. M. Barwell, qui ne lui avait accordé jusqu'alors qu'une attention distraite, se tourna vers elle. « Ah oui, c'est vrai, vous êtes aussi de ce pays, mademoiselle. De quel canton ?»« Zurich, monsieur. »« Je connais, jolie ville, un lac superbe. et la conversation s'engagea sur la Suisse que connaissaient presque tous les interlocuteurs.